Comme je vous l'ai dit, le titre du message, c'est La joie de la fiancée. En fait, j'ai juste un peu modifié mon titre. Je dis, tiens, ce serait mieux de dire plutôt Ce qui fait la joie de la fiancée. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet, eh bien, bien sûr, on peut se poser la question, en tout cas, qui est la fiancée et la fiancée de qui? Alors, je suis sûr que vous avez déjà tous compris de quoi je vais parler, hein, mais vous l'avez deviné, je parlais de l'Église, enfin de la vraie Église en tout cas, celle qui est fiancée à Jésus-Christ. Alors, on peut de nouveau se poser la question, mais c'est quoi la vraie Église et enfin, en tout cas la vraie Ecclésia? Voilà, donc pour ce faire, j'aimerais juste. Vous savez, aujourd'hui, enfin, on vit dans notre société, quand on parle de fiancé ou quand on parle d'époux, d'épouse, eh bien, on réalise, on regarde les choses avec notre culture d'aujourd'hui, avec la façon dont on pratique les choses aujourd'hui. Mais c'est intéressant de regarder ce que la Bible nous dit, hein, parce que ce texte, enfin, les textes qui nous parlent de l'épouse, notamment dans le Nouveau Testament, eh bien, ou de la fiancée dans le Nouveau Testament, c'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans, en gros, et puis avec basés sur la culture juive. Et c'est intéressant justement de réaliser qu'est-ce qui se passait, c'était quoi, qu'est-ce que c'était d'être fiancé, justement, dans cette notion de fiancé, et d'épouse aussi ensuite, bien sûr, dans la culture juive de l'époque, parce que les textes qui nous sont donnés et qui nous parlent de cela, eh bien, ils se basaient par rapport à ce qui se vivait, pardon, à ce moment-là. Alors déjà, la première chose qui est un peu différente par rapport à notre époque, c'est que quand il y avait des fiançailles, eh bien, les fiançailles, c'était quelque chose de enfin, beaucoup plus sérieux qu'aujourd'hui. Enfin, quand je dis ça, je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire que quand une jeune fille était fiancée à un fiancé, et inversement, bien sûr, eh bien, il y avait déjà, je dirais, une notion d'engagement forte. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs un peu comme s'ils étaient déjà mariés, quoi. Quand ils se fiançaient, c'était une valeur très très importante, c'est-à-dire ils étaient déjà liés ensemble. La différence avec le mariage, c'était que d'une part ils vivaient pas sous le même toit et d'autre part ils n'avaient pas non plus de relations sexuelles, hein, ils étaient séparés. Mais en tout cas au niveau de l'engagement, ça avait la même valeur, je dirais, que nous le mariage aujourd'hui, à part effectivement le fait de vivre sous le même toit et d'avoir des relations sexuelles, encore que dans notre société aujourd'hui, tout ça, ça a été balayé. Mais voilà, donc je reviens à cette notion de fiançailles. Quand on parle de fiançailles dans la parole de Dieu, quand il est parlé que l'Église, eh bien, est la fiancée de l'époux, parce que bon, même, il dit que l'Église est l'épouse, mais en réalité, elle est la future épouse, donc elle est la fiancée de Dieu, eh bien, donc il y a bien cette notion de fiancé avec cette notion d'engagement fort. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, si une fiancée allait voir, entre guillemets, ailleurs, hein, comme on dit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire si elle avait des relations avec quelqu'un d'autre, l'époux ou l'époux, enfin la fiancée ou le fiancé, eh bien, c'était considéré vraiment comme un adultère. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est un fiancé, enfin dans notre culture, hein, quelqu'un de fiancé, il s'en va voir ailleurs, on ne va pas dire que c'est un adultère. Hein, pour que ce soit considéré par la loi, on va dire, comme un adultère, eh bien, il faut être marié. Mais à l'époque, et donc quand la Bible nous parle de fiancé, eh bien, c'était cet engagement fort, c'est-à-dire que si on allait ailleurs, eh bien, c'était un adultère. Et donc, il faut, dans ce que je vais partager cet après-midi, eh bien, il faut prendre en compte cette notion forte. Parce que quand Dieu nous parle qu'on est la future épouse, quand on est, Dieu nous montre dans sa parole que l'Église est la fiancée de Jésus, eh bien, il faut prendre en compte ces notions-là, hein, ces notions de fidélité déjà, d'engagement fort, d'alliance, hein, je vais revenir tout à l'heure, cette notion d'alliance forte. Et puis, un autre élément qui me semble quand même aussi, qui a aussi quand même son importance, parce que, ouais, enfin, je vous expliquerai après, mais c'est que à l'époque, la durée des fiançailles, c'était à peu près un an, en gros. Et pendant ce temps de fiançailles, eh bien, pendant ce laps de temps, ben, le fiancé, lui, était en train de préparer sa maison, on va dire. Bon, la plupart du temps, c'était chez les parents. Il y avait sa chambre, il préparait la chambre où, parce que, bon, il vivait beaucoup en famille à ce moment-là, mais soit il préparait sa maison, soit il préparait la chambre qui deviendrait son foyer. Enfin, en tout cas, il préparait le lieu où le couple allait vivre. Et puis, quant à elle, la fiancée, pendant ce temps-là, eh bien, elle se préparait et elle préparait son trousseau. C'est-à-dire qu'elle n'était pas sans rien faire, ni d'un côté ni de l'autre, il y avait cette notion de préparation. Et puis, elle travaillait aussi à se faire et à devenir la plus belle possible. Il suffit d'ailleurs, entre parenthèses, de regarder notamment l'histoire d'Esther, qui est assez intéressante à ce niveau-là. Et puis, le dernier élément, encore un autre élément, dans la culture juive de l'époque, c'est le jour du mariage. Donc, ils étaient fiancés, au bout d'un an, à un moment donné, le mariage allait arriver, et le mariage, bah, c'était le fiancé qui allait chercher la fiancée. Et la plupart du temps, ça se faisait le soir. Hein? La nuit, comment allait tomber? Eh bien, il allait chercher sa fiancée. Si je veux résumer le déroulement de ce que je viens de vous expliquer, hein, je vais reprendre brièvement. Donc, premièrement, ça je ne vous l'avais pas dit, mais le mariage à l'époque souvent était arrangé, approuvé par les parents et notamment par le père. Ensuite, deuxièmement, la fiancée, eh bien, elle devait se présenter devait se présenter au domicile de sa future fiancée avec trois choses. Premièrement, une forte somme d'argent, un projet de contrat de mariage et puis une outre de vin. Le prix fixé pour l'acquisition de la mariée, en fait, quelque part, c'est comme si que le fiancé achetait la mariée. Eh bien, ce prix, en tout cas, était payé par le fiancé. Et puis, l'autre étape, c'était que la fiancée devait donner son consentement. Elle devait dire « je suis d'accord hein, » pour être achetée, entre guillemets, par le fiancé. Et puis, dès que l'accord était conclu, alors il y avait une alliance, on versait du vin dans une coupe, les fiançailles étaient conclues et les fiancés étaient légalement liés en tant que mari et femme, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sans avoir la possibilité de cohabiter ensemble. Ils étaient séparés et puis n'avaient pas de relation sexuelle. Un document écrit était alors établi qui fixait le prix, les promesses faites par le fiancé et puis les droits de la fiancée. Le fiancé donnait ensuite des cadeaux à sa fiancée. La fiancée devait passer par un bas rituel qui symbolisait l'abandon de son ancienne vie et de son passage à la nouvelle vie. Et ensuite, le fiancé retournait dans la maison de son père pour préparer une place à sa fiancée. Et cette place, bon, c'était la chambre de la maison. Enfin, voilà, il est en train de préparer le foyer. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le retour du fiancé, la dernière étape avant le mariage, hein, c'est le fiancé qui allait chercher sa fiancée et puis qui l'emmenait dans sa chambre. Et que là c'était donc après l'union était consommée. Et puis ensuite, il y avait la fête qui durait 7 jours, où il y avait la réjouissance de tous les invités. Ce qui me semble intéressant dans ce que je viens de vous exposer, c'est qu'on retrouve exactement, enfin, en tout cas, des similitudes avec ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Et moi, quand parce que j'ai fait mes recherches un petit peu, mais bon, je savais des choses, mais j'ai voulu que ça se rafraîchisse dans ma mémoire. Et en tout cas, je me suis rendu compte de nouveau, c'est pas en vain plutôt que la parole, la Bible, nous parle que nous sommes la future épouse en tant qu'Église, nous sommes la future épouse et que de notre époux Jésus. Et quand on regarde la façon dont se déroulaient les fiançailles à l'époque, et puis la façon dont, nous sommes, nous, la fiancée de Jésus, eh bien, il y a quand même des similitudes, c'est assez extraordinaire. Parce que, Jésus a payé un grand prix pour acheter la fiancée que nous sommes. Et il a payé au prix de sa vie, il n'y avait pas de plus grand prix. Et puis, par exemple, en tout cas, la Bible nous dit que Jésus va venir chercher son épouse au son de la trompette et qu'il va l'emmener dans la maison du Père. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui me semblent très intéressants. Et voilà, donc déjà, je voulais vous faire une présentation de ce qui se passait à l'époque et vous redonner un petit peu quelques similitudes, et tout en vous rappelant, parce que pour moi c'est aussi une notion très importante, on est fiancé, nous, Église, enfin nous, enfants de Dieu, Église, et c'est la raison pour laquelle dans mon petite introduction j'ai dit la fiancée avec qui? Avec le Seigneur, bien sûr. Et qui est la fiancée du Seigneur? Eh bien, c'est la vraie Église. C'est la vraie Église. Alors, on regardera un petit peu plus après qu'est-ce que moi j'entends par cette notion de vraie Église. Et puis, plutôt d'ailleurs, plus important que moi, c'est qu'est-ce que la Bible nous dit de ce qu'est la vraie Église, de ce qu'est la vraie fiancée. Et juste, je rappelle de nouveau une chose importante qui me semble tellement importante à mes yeux, c'est que je suis fiancé, je suis lié par une alliance avec le Seigneur, et que si je m'en vais voir ailleurs, et en disant ça par exemple, si je m'en vais goûter aux joies entre guillemets du monde, je suis en train de commettre un adultère, même si je ne suis que fiancé et pas encore marié. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous passer une petite vidéo. J'ai fait une petite, elle va durer 7 minutes cette vidéo. Je sais que certains d'entre vous regardent les émissions On est ensemble tous les soirs à 18h. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Et cette semaine, il me semble que c'est mercredi, il y a un certain nombre d'éléments qui m'ont touché. Je veux dire, avec Monique, on le regarde tous les jours, sauf quand on ne peut pas faire autrement. Moi, je vous encourage à regarder ce live qui a lieu tous les jours à 18h, parce que il y a tellement d'encouragement, cette parole de Dieu qui nous touche. Et juste, je vais vous passer, j'ai découpé cette vidéo pour la regrouper, pour les éléments que j'avais envie de partager avec vous. Alors, certains l'ont déjà entendu, mais ce n'est pas grave, ça, vous l'entendrez de nouveau. Donc, je vais vous la partager maintenant. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises, parce que je la prépare. Excusez-moi, mais je suis en train de préparer. Alors, je fais un partage d'écran. Voilà.
Son Saint-Esprit est venu te révéler en fait une vérité que tu ne connaissais pas. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la prière, et en particulier dans la prière de foi?
Alors, prier sans le Saint-Esprit, déjà, j'aimerais dire que c'est dur. Et on le réalise surtout quand on le découvre et quand on découvre sa présence. Et je crois que la même façon que Jésus était avec les disciples, il veut être avec nous à travers son esprit. Et de la même façon que les disciples pouvaient toucher Jésus, je crois qu'on peut vraiment toucher le Saint-Esprit. Et le fait de toucher le Saint-Esprit, de ressentir la présence du Saint-Esprit, et de vivre dans la prière, commencer à vivre dans des temps d'intercession et de découvrir le Saint-Esprit. Prier avec foi, ça devient parfois facile. Et le Saint-Esprit nous communique les grâces, la révélation, il ouvre nos yeux et notre entendement spirituel pour pouvoir prier comme si c'était finalement le Seigneur Jésus lui-même qui prierait.
Amen. Quand on devient enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Mais il y a une différence entre avoir l'Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut animer notre vie, conduire notre vie, nous conduire dans la prière?
Alors, c'est une question que j'aime beaucoup, et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose que je vis par la grâce de Dieu depuis plusieurs années maintenant. Quand j'ai crié à lui et que j'ai dit au Seigneur, je préfère partir si c'est pour vivre une vie chrétienne telle que je la vis, j'avais tellement besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui va nous amener à porter du fruit. Le Saint-Esprit est celui qui va nous amener à découvrir le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment être rempli du Saint-Esprit? Je crois que c'est avant tout un désir profond qui doit naître dans le cœur de l'homme, au point où il arrive à un moment, il se dit, mais est-ce que c'est juste ça, vivre avec le Seigneur? Est-ce que c'est juste ça, la vie chrétienne? Une parole qui m'a marqué du Seigneur Jésus dans la Bible, il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit. J'ai lu, relu et relu cette parole et j'ai dit, mais ça peut pas être juste une image ou une illustration. Il y a vraiment quelque chose qui doit jaillir de mon esprit au point d'être rempli à déborder. Et je crois que le Seigneur veut tellement vous remplir, vous qui nous écoutez, du Saint-Esprit. C'est son désir le plus grand et le plus profond de devenir tellement réel pour vous. Et il vous aime. Et j'aimerais vraiment ôter tout esprit de condamnation, de culpabilité, de je n'ai pas assez prié, je n'ai pas assez lu la Bible, mais simplement être comme des enfants, dire Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Alors, soit on va s'enivrer des choses de ce monde, du vin, soit on va s'enivrer du Saint-Esprit. Et je crois que plus on va s'enivrer du Saint-Esprit, désirer le Saint-Esprit, chercher à être rempli du Saint-Esprit, et il nous remplira parce qu'il a dit qu'il ne rejettera personne qui vient à lui. C'est une promesse de Dieu pour vous et pour vos enfants.
Aujourd'hui dans le monde, est-ce qu'il y a un message particulier que Dieu met sur ton cœur pour son peuple?
Alors, il y a un message avant tout d'espérance, en effet, que Dieu m'a donné en lisant sa parole. Simplement, je crois que Dieu va souffler sur ce virus et qu'il va sécher et faner. Ça, c'est l'espérance qu'il m'a donnée. Mais aussi, je crois que c'est un appel. Dieu profite de ce temps particulier pour rappeler l'Église, alors que le cœur de l'Église s'est éveillé, passant par ces temps difficiles, et qu'il y a cette unité qu'on a vue peut-être comme jamais auparavant, comme le pasteur Peter Schmidt en parlait. Et tout de suite, moi, c'est un appel à la consécration. C'est le prophète Osée qui dit « Je t'attirerai au désert et là, je parlerai à ton cœur. Et là, je te donnerai des vignes d'espérance. Et tu ne m'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras mon mari. » Et je crois que dans ce temps de consécration, Dieu veut nous amener à une nouvelle intimité avec lui, à une nouvelle profondeur avec lui, une nouvelle découverte avec lui. Auparavant, quand j'étais jeune, je priais toujours « Oh, éternel, éternel !» Alors, il n'y a pas de souci avec ça, mais un jour, mon ami Michael m'a dit « Mais pourquoi tu dis toujours éternel ? C'est aussi ton père. » Je crois qu'on peut passer de l'éternel des armées au père, mais je crois aussi qu'on peut passer au père à l'époux et l'épouse. Et ça, c'est quelque chose d'autre que d'avoir un père ou que d'avoir un enfant. Être époux, épouse avec l'épouse, c'est tellement plus profond, c'est tellement plus intime.
Amen. Je crois que Dieu nous interpelle beaucoup ces derniers temps à travers plusieurs intervenants de On est ensemble live à ce qu'on soit l'épouse. Il est l'époux et il vient. Merci beaucoup, Jérémy Sordrille, pour ce partage cœur à cœur qui nous fait du bien et qui nous donne soif de notre Père et de notre Sauveur. Est-ce que, Jérémy, tu peux prier pour nous et avec nous, s'il te plaît?
Oui, avec plaisir, Eric. On veut prier maintenant. Père, on te remercie pour ta merveilleuse présence, pour ta fidélité. Tu n'es pas venu chercher des robots, tu es venu chercher des cœurs qui soupirent après toi. Tu n'es pas venu chercher la perfection, tu es venu chercher des gens, des hommes, des femmes qui t'aiment. Et Père, nous voulons prendre ce moment, profiter de ce moment pour bénir toutes les personnes. Je veux bénir toutes les personnes qui nous regardent. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci parce que nous aspirons tous à la même chose. Nous voulons voir ta gloire. Nous désirons t'aimer de plus en plus. Nous voulons te voir te manifester et sauver, guérir et délivrer tous les gens qui nous entourent. Nous aspirons tous à ce réveil spirituel dans nos vies et dans la vie de l'Église d'une manière générale, dans la vie de ceux qui nous entourent. Et Père, je veux prier pour mes bien-aimés, pour leurs familles, pour leurs églises locales, Seigneur, pour les perdus, leurs collègues de travail et leurs voisins, que ta gloire soit tellement forte sur leur vie, que ta gloire soit tellement forte sur l'Église, que ta présence soit tellement intense dans leur vie, par leur temps de communion, qu'ils puissent voir de plus en plus, Seigneur, des hommes et des femmes être touchés par l'évangile de ta gloire. Je les bénis en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Et je te remercie pour ta fidélité. Oui, la foi réussit toujours. Et tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que celui qui s'approche de toi doit croire. Nous voulons croire que tu es le rémunérateur. Tu es bon, Seigneur. Nous te glorifions. Nous te remercions. Nous t'adorons, Seigneur. Amen.
Voilà. J'espère que vous avez bien saisi ce qui était dit dans cette petite vidéo, dans ce que ses frères nous ont partagé. En tout cas, moi, je suis tellement touché par un certain nombre d'éléments dans ma réflexion, justement, alors que j'étais en train de préparer cette notion de joie dans les fiançailles, dans les choses qui ont été échangées par ces deux frères. Eh bien, voilà, il y a un certain nombre d'éléments que vous allez prendre, enfin, que je vous invite à prendre dans votre cœur, et afin de comprendre ce que je vais vous partager aussi maintenant. Donc, je reviens à cette notion de fiançailles qui est avec cet aspect d'alliance. Dans la parole de Dieu, il y a deux alliances, vous le savez, il y a l'ancienne et la nouvelle. Et puis, donc, l'ancienne alliance, la loi mosaïque et le légalisme, donc l'ancienne alliance, quelles sont les différences avec la nouvelle alliance? Il y a des différences, mais il y a quand même, avant même d'aller plus loin, j'aimerais qu'on ne puisse pas mettre de côté tout au moins une chose. Quand on va parler de cette notion d'alliance, donc avec la loi, avec une forme de loi, la loi est une forme de loi, eh bien, quand même, Jésus, enfin, comment je vais dire ça, même si on vit aujourd'hui sur la nouvelle alliance, parce qu'on est aujourd'hui sur la nouvelle alliance, et que cette nouvelle alliance, on peut dire qu'elle est venue supplanter l'ancienne, en tout cas, ça ne veut en aucun cas dire qu'il n'y a plus de loi. D'ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 17 et 18, il dit ceci textuellement, je vais vous le lire. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le dis, c'est la vérité. Jésus qui dit ceci. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Alors, quelle est la différence aujourd'hui entre cette loi mosaïque et puis cette nouvelle alliance? Eh bien, il y a quelque chose qui me semble fondamental. Je dirais même pour moi, c'est comme une clé. Et vous allez le voir au travers de ce que je vais échanger avec vous cet après-midi. Je ne sais pas jusqu'où j'irai cet après-midi, mais on aura l'occasion d'y revenir de toute façon. Je sais que je ne finirai pas aujourd'hui. Mais cette notion d'alliance est fondamentale. Et la loi mosaïque à l'époque, qui était empreinte de légalisme, c'est très... On lit la Bible, on comprend que c'était la loi de Dieu dans l'ancienne alliance. Et alors qu'aujourd'hui, on est dans la nouvelle alliance, on pourrait avoir cette tendance à tomber justement dans le légalisme. Mais on n'est plus sous l'ancienne alliance. Ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Ça ne veut pas dire que les lois ont disparu. Et justement, dans, Dans Jérémie, chapitre 31, je vais vous le lire à partir du verset 33, Dieu va déclarer quelque chose. Il va dire, au verset 33, donc je répète, hein, Jérémie 31, verset 33, « Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël. J'inscrirai mes instructions, non plus sur des tablettes de pierre, ça c'était la loi mosaïque, mais j'inscrirai mes instructions dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ézéchiel, au chapitre 11, au verset 19, va nous dire un peu la même chose. Il va dire, « Je vous donnerai à tous un même cœur. » Écoutez bien. « Je vous animerai d'un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Ainsi, vous suivrez les règles que je vous ai données, vous serez attentifs à mes lois et vous les appliquerez. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Quant à ceux qui adorent des idoles et agissent de manière révoltante en suivant les penchants de leur cœur, je leur ferai subir les conséquences de leur conduite, je l'affirme moi, le Seigneur Dieu. » Amen. Moi, au travers de ces textes, je vois quelque chose de fondamental, encore une fois. Premièrement, on le sait, et puis je n'ai pas pris ces textes-là là, cet après-midi, mais on sait, enfin, en tout cas la Bible nous le révèle, et puis c'est tellement clair, que au niveau de l'ancienne alliance, personne n'était capable de toute façon de la suivre, de mettre en application la loi de Dieu. Mais ici, Dieu dit, voilà, je vais faire autre chose. Et je pense qu'on voit là, justement, cette nouvelle alliance qui vient, ce n'est plus une loi, vous savez, l'apôtre Paul qui va dire, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est vrai qu'on peut tuer avec la loi. Et même quelquefois, on le fait, nous, consciemment ou inconsciemment. Mais il y a une autre dimension. Nous sommes, je répète encore une fois, parce que frères et sœurs, je suis en train de vous parler, le thème, c'est la joie de la fiancée. Ce qui fait la joie de la fiancée. Alors, ce n'est pas tellement cet après-midi que je vais discuter de la joie, mais en tout cas, j'ai envie de jeter les bases de ce qui se passe, enfin, ce qui fait que nous sommes la fiancée. Je suis la fiancée parce que j'étais choisie par le Père. Je suis la fiancée parce qu'aujourd'hui, eh bien, Dieu est celui qui, en tout cas, je lui ai donné l'autorisation. Rappelez-vous comment ça se passait dans les fiançailles, ce que je vais expliquer tout à l'heure. J'ai donné l'autorisation à Dieu de venir inscrire dans mon cœur, de venir toucher ma conscience, de venir mettre en moi sa volonté, enfin ses lois. Et au travers de l'action du Saint-Esprit dans ma vie, justement, eh ben, je suis rendu capable. Et Dieu va dire, c'est le texte d'Ézéchiel, il dit, voilà, j'enlèverai votre cœur de pierre pour mettre à la place un cœur de chair, un cœur qui est rendu sensible à la pensée, à la volonté de Dieu. Alors, frères et sœurs, eh bien, il y a donc bien une loi écrite. On n'est pas sans loi parce qu'on est sous la grâce. Mais on n'est pas dans cette loi légaliste qui condamne. Je ne sais pas comment expliquer. Mais on est dans une loi qui est motivée en profondeur par l'amour de Dieu pour la fiancée que nous sommes. Dieu, ce Seigneur de gloire, Dieu qui sait que avec ce que nous sommes, on est incapable par nous-mêmes d'accomplir la loi de Dieu et la volonté de Dieu, eh bien, dans sa grâce infinie, alors que je suis en accord pour que cela se fasse, parce que si je ne suis pas d'accord, ça ne se fera pas, eh bien, Dieu vient écrire en moi sa loi. Il vient toucher mon âme, il vient toucher mon esprit, et il vient me transformer. La loi mosaïque exigeait une obéissance légaliste, aveugle et religieuse. J'essaie de résumer un petit peu. Mais la loi sur la nouvelle alliance, elle se vit, elle se réalise dans une dimension d'amour qui grandit au fur et à mesure où Dieu va impacter justement mon esprit, au fur et à mesure où Dieu va écrire dans mon cœur. Parce que ça, c'est ce qu'il est en train de faire dans le cœur de la fiancée que je suis. Alors, la loi, la grâce, ouais, frères et sœurs, on vit sous la grâce aujourd'hui. Je suis sauvé par grâce. Je suis la fiancée sauvée par grâce. Mes frères et sœurs, tous les jours, en tout cas, je réalise une chose, j'espère que vous, enfin, je suppose que vous le réalisez, vous aussi, et je le sais en tout cas, je le sais tellement, que rien de ce que je peux faire, rien de ce que je... Enfin, toutes les meilleures des choses bonnes que je pourrais faire, mais rien ne pourra payer, ne sera suffisant pour payer un jour mon salut. Rien. Je suis vraiment sauvé par grâce. Pourtant, cela ne veut pas dire que la fiancée que je suis, l'Église, l'enfant de Dieu que je suis, ne doit pas vivre sous la loi écrite dans mon cœur par Dieu lui-même. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas prendre en compte cette loi que Dieu veut écrire en moi. Vivre sous la grâce, c'est vivre avec cette alliance en tant que fiancé envers le Seigneur, mon fiancé, qui un jour deviendra mon époux. Et j'aime personnellement penser et dire, parce que je le crois, puis je le réalise aussi, et je remercie le Seigneur de ce qui me touche dans cette dimension-là, c'est que je comprends, un jour j'ai compris, et depuis je comprends, que Dieu, avant d'être intéressé par ce que je fais, est intéressé par l'intention avec laquelle je le fais. Et je vais essayer de m'expliquer en disant ça. Mais ce que je suis en train de vous dire, il me semble que ça change tout. C'est-à-dire que je réalise la profondeur de la grâce et puis en même temps, je sais quelle est ma responsabilité dans le fait que volontairement j'ai accepté d'être la fiancée de Jésus. Je vais juste prendre un exemple pour essayer de vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. L'exemple, venir à l'église. On fait partie de l'église. Nous sommes les uns et les autres membres d'une église locale et je dirais même de façon plus importante d'ailleurs, on est membre de l'église avec un grand E, on est des enfants de Dieu. Et l'église avec un grand E, c'est l'épouse justement. Cette épouse qui a fait cette alliance de fiançailles avec le Seigneur. Parce que si je suis la fiancée ou la future épouse, c'est que j'ai fait cette alliance, sinon je ne suis pas la fiancée. Je suis bien celui qui a fait une alliance avec le Seigneur. Alors je reviens à l'exemple que je vais essayer de vous donner là cet après-midi. Venir à l'église. Si je viens à l'église pour vous faire comprendre ma pensée, si je viens à l'église tous les dimanches et même si je fais tous les cultes de la semaine et si je participe à toutes les réunions organisées par l'église et si je le fais parce que ça me donne une bonne conscience dans ma religiosité en ayant l'idée que je fais quelque chose de bien, Voilà, je dirais qu'en réalité, devant Dieu, c'est un peu comme du vent, quoi. Mais en même temps, si je ne viens pas parce que je choisis plutôt les attraits du monde, eh bien, juste une chose, Dieu connaît mes intentions. Il sait pourquoi je viens, il sait pourquoi je ne viens pas. Dieu va juger mes intentions. Mes intentions qui vont forcément découler sur une action, sur des choses que je vais faire, évidemment. Et vous savez quoi? Dieu va les juger avec justice. Nous, vous savez, on n'est pas toujours juste, mais Dieu, lui, sera toujours juste. D'ailleurs, entre parenthèses, je dirais que c'est Dieu qui a le droit de juger. Sans nous, les intentions des uns et des autres, on ne les connaît pas. Mais Dieu connaît nos intentions. Et je dirais, j'oserais dire même que nous, quelque part, on n'a pas le droit de juger l'autre. Je dirais même en aucun cas, on a le droit de juger l'autre. Parce qu'on ne sait pas. Je me rappelle juste l'image que Jésus a donnée, enfin cette parabole qu'on aime souvent donner pour les autres. Mais vous savez, quand Jésus va parler de la paille qui est dans notre œil, et puis, enfin de la paille qu'on voit plutôt, voilà plutôt la paille qu'on voit dans l'autre, dans l'œil de l'autre, et puis la poutre qu'on ne voit pas dans notre œil. Mes frères et sœurs, Dieu est juste et il connaît nos intentions. Par contre, maintenant, si je viens à l'Église, ou aux réunions, enfin, comme voilà, réunions, toutes les réunions organisées que l'Église organise. Si je viens, parce que j'ai saisi et j'ai compris, parce que Dieu a écrit dans mon cœur, et ce que Dieu écrit dans notre cœur, vous savez, c'est cette parole révélée. Voilà, je voulais juste vous dire une chose qui est une caractéristique du cœur de Dieu. Et que quand moi je deviens l'épouse de Jésus-Christ et quand je veux lui ressembler, quand je cherche à devenir, quand je cherche à devenir son image, eh bien, ouais, c'est quelque chose qui doit devenir aussi ma personnalité. C'est que Dieu, une des caractéristiques de Dieu et de Jésus, c'est qu'il est tourné vers l'autre. Il est tourné vers nous. Est-ce que quelqu'un ici, alors qu'on est là ensemble cet après-midi, peut dire « Moi, je mérite que Dieu tourne son regard vers moi. » Je pense que personne ne peut dire ça. Aucun d'entre nous ne méritons la grâce de Dieu. Aucun d'entre nous ne méritons que Dieu tourne son regard vers nous. Et pourtant, Dieu le fait. Le Dieu de gloire s'est fait serviteur. Rappelez-vous ce qui s'est passé avant que Jésus aille sur la croix de Golgotha lors de la dernière Pâque, où Jésus est venu servir, il s'est fait le serviteur jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Et encore une fois, quand on regarde la culture de l'époque, c'était pas rien. C'était montrer quelque part qu'il était, c'était le rôle des esclaves, des serviteurs de laver les pieds. Des invités. Et là, Jésus, c'est vraiment, il a symbolisé, il a montré, il a posé les actes du serviteur, de l'esclave. Mais je suis en train de m'écarter. Donc, je reviens à mon exemple. Quand je viens à l'église locale, parce qu'on se réunit dans l'église locale, qui est une partie de l'Église avec un grand E, donc qui est là en tant que partie de l'épouse, on va dire. Eh bien, quand je viens à l'Église, parce que, bien sûr, déjà je viens à l'Église pour rencontrer le Seigneur dans un temps de particulier de rencontre en commun, en tant qu'Église, mais c'est pas seulement, je viens à l'Église, c'est pas seulement pour rencontrer le Seigneur. Mais je viens à l'église pour être au service de l'autre. Parce que frères et sœurs, je ne sais pas si on comprend la même chose, mais pour moi c'est tellement clair. C'est tellement clair que l'église locale dans laquelle je suis, enfin, je suis un élément de l'église locale, et l'élément que je suis, il est juste là, enfin, je vais dire ça, peut-être c'est un peu exagéré, mais quand même, il est juste là pour bénir l'autre. Et donc, enfin, pour être au bénéfice, pour être comment je vais dire ça, un acte d'amour, enfin, ou je ne sais pas comment expliquer ça, mais pour être une partie d'amour qui est donnée à l'autre. Je ne viens pas à l'église pour me faire du bien. Ben, ça peut arriver, bien sûr que il y a aussi cet aspect-là. Mais en tout cas, ça ne doit pas être notre motivation. Je viens à l'église pour faire du bien à l'autre, pour apporter ma part de ce que Dieu m'a donné, parce que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous quelque chose de particulier pour qu'on soit une bénédiction, une projection de l'amour de Dieu pour l'autre, celui qui est à mes côtés, et ensemble on fait cette église locale. Alors si ça c'est quand je viens, quand je participe à l'église locale avec cette dimension de serviteur du cœur de serviteur rempli d'amour et de la grâce de Dieu dans ma vie, c'est qui se manifeste envers l'autre, alors là Dieu aussi connaît mes intentions. Et ces intentions-là, il les jugera aussi avec justice. Et d'ailleurs, même si on ne mérite pas, eh bien Dieu nous dit qu'on aura une récompense. Alors quand je viens à l'église, quand je participe, parce que j'ai en moi ce feu d'amour envers l'autre, et ce feu d'amour, il vient comment? Eh bien, il vient dans mon intimité avec le Seigneur. Il vient dans ce que Dieu vient écrire en moi, c'est loin dans ce que Dieu vient toucher, changer, transformer mon esprit. C'est ce qu'on a lu dans les textes tout à l'heure, dans Jérémie, dans Ézéchiel. Ça, c'est ce que Dieu fait quand je le laisse faire, forcément. Mais quand je vis cela, eh bien, je suis alors en train de participer quand même à quelque chose de glorieux. Je suis en train de participer à une construction merveilleuse. Ouais, Dieu connaît mes intentions. Et c'est dans ce sens-là, tout à l'heure, où je disais que avant d'être intéressé par ce que je fais, vous savez, en apparence, le fait d'aller à l'église, par exemple, parce que c'est juste un exemple que je vous prie, mais enfin, qui est une réalité aussi en même temps. Mais voilà, si je viens à l'église juste pour remplir mon devoir religieux, mais ça n'a pas de valeur. Enfin, devant Dieu. Ça a peut-être une valeur à mes yeux, ou ça a peut-être une valeur aux yeux de mes frères et sœurs qui sont à côté, mais pour le Seigneur, ça n'a pas de valeur. Parce que Dieu, encore une fois, connaît mes intentions. Mais je répète, si je viens manifester le serviteur que je suis, celui qui est au service du corps de Christ, donc au service de mes frères et sœurs, avec un cœur rempli d'amour. Vous savez, cet amour qui a balayé tout esprit de jugement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour juger l'autre. Mais ça, c'est notre nature humaine. C'est tellement facile de juger l'autre plutôt que de se juger soi-même. Alors, voilà, moi, je vais conclure dans cette première partie pour vous parler du fait de la joie, ce qui fait la joie de l'épouse, et je vous parlerai plus tard de ce qui constitue la joie de l'épouse. Mais en tout cas, peut-être qu'au travers de ce que je vous ai partagé là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais tu n'as pas beaucoup parlé de joie, c'est vrai. Mais ce que je voulais, et je crois que je l'ai fait quand même, c'est jeter les bases de ce qui fait la joie de la fiancée. De ce qui va vivre en moi et ce qui va me permettre dans mon rôle de fiancé et d'enfant de Dieu, vivre avec une joie profonde, une paix parfaite, que je ne peux de toute façon pas trouver dans le monde. La joie de la fiancée de Christ ne peut être une réalité qu'à partir du moment où par amour, je laisse Dieu écrire et agir dans mon cœur et dans mon esprit. À partir du moment où je laisse Dieu écrire sa loi, parce que vous savez quoi? La loi de Dieu, que Dieu écrit dans nos cœurs, ce n'est pas une loi qui est faite pour nous écraser. C'est pas, oui, elle va écraser notre nature charnelle, enfin, adamique, voilà, c'est ça, chercher le mot. Enfin, je vous ai déjà expliqué, enfin, vous savez ce que je veux dire quand je parle de la nature adamique, hein, vous le savez. Et cette loi de Dieu qui est écrite dans mon cœur, elle vient écraser ma loi adamique. Et quelquefois, ce n'est pas facile, quelquefois, ça me fait du mal. Et Dieu, enfin, l'intention de Dieu et la volonté de Dieu, ce n'est pas de me faire du mal, mais c'est de remplir mon cœur de joie, d'amour, et de en tout cas de la vraie joie. Et de toute façon, et je terminerai là-dessus, de toute façon, tout ce qui motive le cœur de Dieu, de toute façon, frères et sœurs, quand Dieu veut écrire ses lois dans votre cœur, ses lois que moi, le fiancé que je suis, je veux mettre en application, je n'ai pas tout compris. Moi, Jean-Bernard, cet après-midi, je suis en train de vous parler, oh, je sais à quel point je n'ai pas encore tout compris et à quel point je suis pas encore, enfin, à quel point j'ai besoin que Dieu vienne encore écrire dans mon cœur et vienne encore travailler mon esprit. Mais je désire qu'il le fasse. Et je sais que jour après jour, eh bien, il vient écrire dans mon cœur. Il me touche quand je lis sa parole par l'action de son esprit. Je comprends des choses qui sont relatives à ma vie. Je sais, je comprends des choses qui ont besoin d'être changées quand Dieu met son doigt sur quelque chose dans ma vie. Je saisis un petit peu à la fois, comme vous tous, un petit peu à la fois, la grandeur de l'amour de Dieu au travers des lois qu'il écrit dans nos cœurs. Les lois que Dieu met dans nos cœurs, ce n'est pas pour nous condamner, nous. C'est le contraire de ce qui se passe quand on met en application enfin, cette loi mosaïque de façon légaliste. Quand on veut appliquer la loi de façon mosaïque de façon légaliste, eh bien on s'écrase, ou on écrase l'autre. Mais Dieu, il vient avec nous avec une dimension d'amour extraordinaire. Jésus a dit, mon joug est facile et mon fardeau léger. Vous savez ce que c'est un joug, hein? Un joug, il est fait pour, il est mis sur le cou des bœufs, hein, pour que les bœufs aillent dans la direction où celui qui conduit cet attelage désire que les bœufs aillent. Mais c'est vrai que c'est ce que Dieu fait avec nous. C'est vrai que c'est ce que Jésus, enfin, l'époux, veut faire avec nous. Il veut nous conduire dans la bonne direction. La meilleure des directions possibles pour nous. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans le temps de grâce, dans le temps de cette nouvelle alliance. Et si, encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure, si je suis sous la nouvelle alliance, si je suis dans ce temps de grâce aujourd'hui, eh bien, c'est que j'accepte la nouvelle alliance. C'est que j'accepte que Jésus vienne écrire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Non, j'accepte que Jésus vienne écrire dans mon cœur sa loi, qui est parfaite, qui est pleine d'amour, afin de me conduire et d'aller dans cette dimension de joie. Mais ça, je vous en reparlerai la prochaine fois.